Et c'est parti.
Hare Krishna.
Et puis,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors, à la page 177, Ananda, s'il vous plaît.
Oui. Tamala Krishna, 38. De même que la fumée masque le feu, que la poussière recouvre le miroir ou que la matrice enveloppe l'embryon, différents degrés de concupiscence recouvrent l'être. Prabhupada, la concupiscence, différents degrés de concupiscence, ceux qui sont dans les modes de vertu, leur concupiscence est d'une qualité différente. Ceux qui sont dans la passion, leur concupiscence est de qualité différente. Ceux qui sont dans l'ignorance, leur concupiscence est différente. C'est la question. Tout comme il existe des prisonniers de première classe, de deuxième classe et de troisième classe. Et malgré tout, ce sont des prisonniers, qu'ils soient de première classe, de deuxième classe ou de troisième classe. Cela n'a pas d'importance. De la même façon, dans ce monde matériel, quelqu'un peut être très instruit, riche, beau, avec toutes les bonnes qualifications, selon les modes d'influence de la vertu. Alors, il, ou quelqu'un est influencé par la passion, et quelqu'un d'autre se trouve encore plus bas à un degré inférieur, ou même dans la vie animale. Mais ils sont tous prisonniers de ce monde matériel. Il faut transcender cette position. Il faut transcender même la soi-disant vertu du monde matériel. Tout comme Arjuna essayait d'être un homme soi-disant bon dans ce monde matériel. Il essayait d'éviter l'ordre de Krishna. Krishna voulait qu'il mène le combat à Kurukshetra, mais il voulait être un bonhomme, un homme bon. L'heure venue du combat, une fois convaincu des instructions de Krishna, lesquelles constituent cette Bhagavad Gita, cela signifie qu'il avait transcendé même le niveau de la vertu de ce monde matériel. Ainsi, Krishna essaie de l'élever au niveau suivant. Trigunya Vishaya Veda Nistrigunyo Bhavarjuna. Bhagavad Gita 2.45. Les Védas traitent essentiellement de sujets relatifs aux trois modes d'influence de la nature matérielle. Transcende ces trois gunas, ô Arjuna, libère-toi de toute dualité, de tout souci de gain et de sécurité, et fixe ton attention sur le soi. Toute cette atmosphère matérielle est surchargée de trois modes d'influence de la nature matérielle. Il faut donc transcender les modes d'influence de la nature matérielle. Tout comme il ne faut pas essayer de devenir un prisonnier de première classe. Dans une prison, si l'un est un prisonnier de troisième classe et l'autre un prisonnier de première classe, le prisonnier de troisième classe ne devrait pas penser que je vais rester dans cette prison et devenir un prisonnier de première classe. Ce n'est pas correct. Il faut transcender les murs de la prison ou sortir de la prison. Tel est le but qu'il devrait viser. Continuez. Tamala Krishna. Teneur et portée. Trois degrés d'obscurcissement peuvent voiler la conscience pure de l'être, et cet obscurcissement n'est autre que la concupiscence sous ses diverses formes, comparée tantôt à la fumée qui masque le feu, tantôt à la poussière qui couvre le miroir, ou encore à la matrice qui enveloppe l'embryon. Si l'on compare la concupiscence à de la fumée, c'est pour indiquer que le feu de l'étincelle spirituelle est légèrement perceptible. L'être manifestant de façon atténuée sa conscience de Krishna est comparé au feu que voile la fumée. Il n'y a jamais de fumée sans feu, même si au départ le feu est presque invisible. Et il en est de même lors de l'éveil de la conscience de Krishna. La poussière sur le miroir indique que le miroir du mental doit être nettoyé par des pratiques spirituelles, la meilleure étant le chant des saints noms du Seigneur. Quant à l'embryon qu'enveloppe la matrice, il renvoie l'image d'une condition désespérée, car l'enfant dans le sein de sa mère ne peut quasiment pas bouger. Cette étape de l'existence est comparable à la vie d'un arbre. L'arbre, qui est aussi un être vivant, a fait montre d'une telle concupiscence qu'il a dû revêtir un corps presque entièrement dépourvu de conscience. Prabhupada. Oui, ces arbres. Nous devrions savoir que les arbres, ce sont aussi des êtres vivants, mais ils ont été mis dans une position si maladroite qu'ils se tiennent en place pendant des milliers d'années. Ils ne peuvent même pas bouger. Si quelqu'un les coupe, ils ne peuvent pas protester. Telle est leur vie conditionnée dans laquelle ils se retrouvent. Si quelqu'un vit leur faire du mal, ils ne peuvent pas s'en aller. Ainsi, la vie conditionnée la plus abominable est celle des arbres. Continuez. Tamala Krishna. L'exemple du miroir que recouvre la poussière peut s'appliquer aux oiseaux et aux mammifères, celui du feu et de la fumée à l'être humain. Prabhupada. Oui, les oiseaux et les bêtes, ils peuvent se déplacer. Ils peuvent se protéger d'un autre être qui vient leur faire du mal. Mais quand même, ils n'ont aucune vraie connaissance. C'est la même chose. Un peu mieux que les arbres. Continuez. Tamala Krishna. La forme humaine offre en soi à l'être vivant la possibilité de raviver sa conscience de Krishna. S'il s'emploie à cette tâche, il parviendra à rallumer en lui le feu de la vie spirituelle. Prabhupada. Oui. Tamala Krishna. Tout comme en manipulant soigneusement la fumée, on peut transformer le feu en brasier. Prabhupada. Oui. Lorsque le feu est recouvert par la fumée, si vous mettez un petit ventilateur près du feu, immédiatement le feu s'embrasera. La fumée disparaît aussitôt. Il en va de même pour la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, en chaque être vivant, particulièrement chez l'être humain, et ce, même chez les aborigènes, ceux qu'on dit non civilisés. Ils offrent aussi un certain respect aux mers, à la foudre, à une grande montagne. Ils leur offrent quelque chose de précieux. Ils se prosternent. Cela signifie qu'il y a une forme de conscience de Krishna. Donc, tout comme un feu couvert de fumée, si vous l'attisez, si vous essayez juste de faire disparaître la fumée, le feu apparaîtra. Nous devons donc en profiter. Nous avons maintenant cette conscience, le pouvoir d'être conscient de Dieu. C'est pourquoi on retrouve dans chaque société humaine une sorte de message religieux, essayer de comprendre Dieu. Nous devrions donc en profiter. Mais au lieu de profiter de cette opportunité, nous avons déclaré « Dieu est mort, je suis Dieu, je suis celui-ci, je suis celui-là ». Vous voyez ? Donc nous ne sommes pas en train d'éventer notre flamme. Au contraire, nous nous éloignons de plus en plus de Dieu. On ne devrait pas faire ça. Continuez. Tamala Krishna. La forme humaine permet donc de se libérer des chaînes de l'existence matérielle. Elle est la seule forme qui permette à l'être de vaincre son ennemi, la concupiscence, en lui fournissant la possibilité de développer la conscience de Krishna, sous la conduite d'un guide compétent. Prabhupada. Oui. Tamala Krishna. 39. C'est ainsi, ô fils de Kunti, que la conscience pure de l'être connaissant devient voilée par son ennemi éternel, l'insatiable concupiscence, qui flambe comme le feu. 40. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence que se loge cette concupiscence. Par leur intermédiaire, elle recouvre le savoir véritable de l'être vivant et l'égare. Prabhupada. Oui. Ceci est très important. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence que se loge cette concupiscence. Si quelqu'un est concupiscent et si l'on doit chercher où se trouve cet ennemi, la concupiscence, alors Krishna vous donne une information directe. Voici votre ennemi. Où ? Les sens, le mental, l'intelligence. C'est là qu'est la concupiscence. Donc si vous pouvez comprendre, voici l'ennemi, et si vous voulez le chasser, vous devez prendre des précautions. Quelles sont ces précautions? Vous engagez vos sens dans des activités conscientes, de Krishna. La concupiscence n'aura plus de place pour attaquer vos sens et d'y rester imprégné. Vous absorbez votre mental en Krishna, immédiatement la concupiscence disparaîtra de votre esprit. De même, vous appliquez votre intelligence à savoir comment agir d'une façon consciente de Krishna. Telles sont les façons de faire. Le mouvement de la conscience de Krishna est comme ça. Engagez votre intelligence, votre esprit, vos sens uniquement au service de Krishna et il n'y aura plus de concupiscence. Vous en êtes affranchi. Il n'y a pas de place pour elle. C'est comme ce verre, il est déjà plein d'eau. Comment pouvez-vous y verser de l'encre, parce qu'il n'y a plus de place pour l'encre? De même, si vous placez Krishna dans votre esprit, la concupiscence s'en ira automatiquement. Tout comme si vous faites la lumière dans cette pièce, l'obscurité disparaît automatiquement. Il n'y a plus de place pour l'obscurité. Krishna est la lumière. Le soleil est lumière. Dès que le soleil se lève, toute l'obscurité de la nuit disparaît automatiquement. Essayez donc de placer Krishna dans votre esprit, dans vos activités sensuelles, dans votre intelligence. Alors, il n'y aura plus de concupiscence. Elle sera éliminée.
Jai, merci beaucoup.
Jai,
Om Gyanati Mirandasya Gananjana Sadakaya Chaksurun Minitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Srila Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Ben, je peux dire que ça a été pris de toutes les angles, ça a été expliqué d'en haut par en bas, de droite à gauche. C'est clair et net le message.
Ouais.
Ouais.
Alors, si c'est si clair que ça, on joue l'avocat du diable un petit peu, là. Si c'est si clair que ça, comment se fait-il qu'on peut entendre des dévots qui disent, ou du moins qui lancent un message, puis qui disent, ah, j'ai beaucoup de difficultés avec mon mental. J'ai beau chanter Hare Krishna, et j'ai de la difficulté avec mon mental. Alors, évidemment, ils vont pas nécessairement devoir dire qu'est-ce qui se passe dans leur mental. En général, ils vont juste envoyer ça un message très général. Ah, j'ai de la difficulté avec mon mental. Bon. À la lecture de ce qu'on vient de lire aujourd'hui, on peut présumer que il y a de fortes chances que ce soit la concupiscence qui soit en cause. Est-ce que c'est pas ça, là? Êtes-vous d'accord avec ça?
C'est quoi la concupiscence, là? C'est quoi ce mot-là pour être sûr?
En anglais, c'est ce qu'on appelle lust.
OK.
Alors, c'est traduit en français par concupiscence. Et à d'autres endroits qu'on a lus déjà, c'est traduit par convoitise. Alors, dans le Chaitanya Charitamrita, il y a une différence qui est exprimée entre la convoitise ou la concupiscence et l'amour de Krishna, l'amour de Dieu. Alors, la différence entre les deux, c'est que lorsque c'est la concupiscence, ça veut dire on accepte les choses pour soi-même. Et lorsque c'est l'amour de Dieu, on accepte les choses, mais pour Krishna. Alors, si quelqu'un a de la difficulté avec son mental, que faut-il dire de ses sens, de son intelligence, dû à la convoitise, c'est parce qu'il devrait se poser la question: mais qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ou qu'est-ce que je suis en train de faire dans l'immédiat et tirer une conclusion? La conclusion, c'est est-ce que je suis en train de faire des choses pour moi ou des choses pour Krishna? Et si on est en train de faire des choses pour Krishna, on ne peut pas les faire toutes seules, ces choses-là. On peut pas penser, ah, moi, je suis tellement conscient de Krishna. Non. On n'est pas conscient de Krishna plus qu'il faut si on n'est pas conscient justement de faire les choses telles que le maître spirituel nous le dit de le faire. Alors, on peut pas séparer la conscience de Krishna d'un maître spirituel authentique. Alors, on sert Krishna, mais en même temps, on sert le maître spirituel qui est le représentant de Krishna. Est-ce que c'est clair? Ouais. Alors, Prabhupada donne l'analogie C'est comme la voie ferrée. Pour avoir un train qui passe sur la voie ferrée, ça prend deux rails, pas juste un rail. Évidemment, quelqu'un peut dire, ben oui, mais les monorails, ça existe, OK? Mais disons, en général, si on veut le train, ça prend deux rails. C'est l'exemple qui est donné. Alors, un rail, c'est Krishna, et l'autre rail, c'est le maître spirituel, c'est Guru. Alors, la difficulté aussi avec le mental, il y a plusieurs difficultés avec le mental, disons. Ça, c'est comme adopter, vous allez au pet shop, puis vous adoptez un chien, vous achetez un chien, mettons, pour ne pas dire autre chose. Vous avez acheté votre chien, mais il a de l'air beau, il a de l'air gentil, il est tout mignon comme tout, surtout quand il est petit. Puis là, ben, vous devez l'élever. Et là, vous savez pas non plus quel genre de maître vous êtes. Vous allez le savoir là, bientôt si vous êtes un bon maître ou un mauvais maître. Est-ce que le chien va vous obéir ou pas? Alors, si le chien ne vous obéit jamais, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites ou que vous avez fait que le chien a pris note, lui. Alors, comme on disait dans les cours précédents, tu lui donnes un pouce, il va prendre une verge. Alors, tu lui donnes un centimètre, il va prendre un mètre, la mesure métrique. Alors, ça va être comme ça. Alors, le mental, lui, est habitué à avoir le champ libre depuis des millions, pardon, depuis des millions d'années. Alors, faut pas s'étonner que justement le mental tire d'un bord, le tire de l'autre. Mais comment on va faire pour maîtriser le mental? Et en même temps, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il donne des instructions à Arjuna et Arjuna rejette les instructions, disant que essayer de maîtriser le mental, c'est comme essayer de maîtriser le vent. Alors, qui peut maîtriser le vent? C'est impossible. Alors, pourtant, il faut arriver à maîtriser ses sens. Parce que, comme c'est dit aussi, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, sans maîtrise des sens, pratiquement parlant, on ne peut pas être un yogi. Un yogi, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise ses sens. Alors, il y a des yogis, il y a des gyanis, il y a des karmis, et dans un cas comme dans l'autre, ils n'arriveront pas à maîtriser complètement leurs sens, leur mental, leur intelligence. Pourquoi? C'est juste une question de temps avant qu'ils tombent encore une fois. Alors, pourquoi c'est comme ça? On t'entend pas.
Ils ne tiennent pas le mental occupé à une direction.
Exactement. À une direction, c'est bien dit. Alors, Prabhupada dit, le mental ne peut pas être paisible s'il n'a pas un objectif ultime. Alors, c'est pas juste une question d'avoir un mental tranquille ou paisible pour 5 minutes ou une demi-heure par jour, parce qu'on fait de la méditation. Puis après, ben, on laisse la méditation de côté, quelle qu'elle soit. Puis on fait d'autres choses. On peut poser la question, mais à quoi ça sert? Bon, ça sert à quelque chose pour ceux qui sont à ce niveau-là et qui pensent que ça leur fait du bien. On va pas dire le contraire. Cependant, la méditation peut, nous, les dévots de Krishna, on fait de la méditation aussi, mais on médite sur quoi?
Sur tout ce
Krishna?
qui est...
Pardon?
Allez-y, Ananda.
Non, sur Krishna, en fait, on médite sur Krishna, sur les, et puis pareil au lotus de Krishna, sur les qualités de Krishna. Mais
Ouais, mais ça commence comment?
Par le chant des saints noms?
Exactement. On médite sur la vibration sonore. Quand on chante le Mahamantra, on est supposé se concentrer sur la vibration sonore, et elle n'est pas différente de Krishna. Madhavananda, t'allais dire quelque chose?
Non, c'est bien qu'est-ce qu'elle a dit.
Exact. Et bon. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. C'est le chant des saints noms qui fait toute la différence pour les dévots. Et le chant des saints noms est très purificateur. Ce qui fait qu'avec le temps, le mental va être moins perturbé par toutes sortes d'idées ou de plans saugrenus qui n'ont pas d'affaire avec, qui n'ont pas de rapport avec le service de dévotion. Et à un moment donné, c'est la conscience de Krishna qui va s'éveiller de plus en plus et qui va prendre le dessus. Alors, comme Virginie disait, on médite sur les qualités de Krishna, sur Krishna lui-même, ses divertissements, ses saints noms. Et ça, c'est l'idéal pour un dévot. Et finalement, lorsque le mental est complètement absorbé en Krishna, c'est ce qu'on appelle l'état de, quel est le mot sanskrit?
Ça m'a dit.
Samadhi. Un samadhi veut dire le mental qui est fixé sur un objet. Et cet objet-là, ça doit être Krishna. Alors, samadhi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Alors, tout ça passe dans la tête. Et
Oui,
la
mais...
façon pour le diriger, c'est avec nos désirs. C'est nous les responsables de où ce qu'on est par nos désirs.
Oui, mais les désirs sont juste dans la tête.
Ben, je ne sais pas où les prendre. Comme là, j'ai un désir d'écouter, vas-y, la classe. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, là. Mais c'est
Non, c'est
dans le
pas ça.
cœur, oui.
C'est la volonté. Pour moi, c'est la volonté. C'est de prendre des directions et le paramètre de la volonté est important, en fait.
Mais la volonté sur quoi si on n'a pas de désir de diriger la volonté à une place?
Bah, tu as la volonté de suivre la classe, en fait. C'est, tu as décidé que tu suivrais la classe.
Mais le
C'est, en fait,
décider, c'est le
on
désir,
est aux
c'est le désir.
commandes. On est aux commandes en tant que, je sais pas, laissons notre Prabhu nous commenter tout ça.
Oui, ben justement, on va trancher la poire en deux, si on peut dire. Alors, l'idée, c'est que c'est dans le cœur, premièrement, que ça se passe. Alors, si on a un... Il faut qu'il y ait, comme Prabhupada dit, bija. Bija, ça veut dire une semence. Alors, comme c'est dit, par exemple, lorsque le dévot est initié par un maître spirituel, il reçoit ce qu'on appelle le Bhakti Lata Bija, c'est-à-dire la semence du service de dévotion. Il la reçoit pourquoi? Ou comment ça se fait qu'il la reçoit? Parce que Krishna, dans son cœur, a vu cette âme qui est sincère. Il l'a dirigée vers un maître spirituel. Comme c'est dit, lorsque quelqu'un est sincère, il va rencontrer un maître spirituel authentique. Et de là, apprendre c'est quoi la conscience de Krishna et pratiquer la conscience de Krishna. Alors, en quelque part, ça, c'est le point de départ, c'est le cœur. Alors, comme par exemple, dans votre cœur, je prends pour acquis que c'est ça, sinon on serait pas là ni un ni l'autre de aucun d'entre nous aujourd'hui. C'est qu'on a un désir d'être conscient de Krishna. Ça, c'est le point de départ. Et après, ben, le reste, ça va suivre. Disons, comme par exemple, apprendre à aller sur Internet et puis cliquer sur le lien pour venir au cours. Oui, ça, c'est dans la tête, c'est dans l'intelligence, mais un peu plus profond, à l'origine de ça, c'est qu'il y a un désir d'être conscient de Krishna. Quelqu'un prend au sérieux la conscience de Krishna. Et puis le reste s'ensuit. C'est comme, par exemple, après le cours, chacun va revenir à dans son setup, ses circonstances. Et là, ce serait la même chose. Comment vous allez être conscient de Krishna, même s'il n'y a pas de cours? Un, ça va être chanter des Mahamantras, ou écouter une classe, ou lire des livres de Prabhupada, ou faire les tâches quotidiennes qui vous reviennent, faire la cuisine, faire le ménage, whatever. Mais vous savez que Krishna dit, emplissez de moi toujours votre mental. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. Krishna dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, tout ce que tu donnes en charité, tout ce que tu fais comme austérité, devrait être fait comme une offrande à moi. Alors, c'est l'idée, c'est ça. C'est comme Arjuna, il est un soldat, il est un militaire, il a tout l'entraînement possible et imaginable pour être un super bon militaire. Alors Krishna nous dit, combat, mais en même temps, pense à moi. Puis en plus, le combat d'Arjuna, c'est pas un combat ordinaire, c'est un combat pour défendre des principes religieux. Et c'est tout à fait correct comme ça. Alors, c'est expliqué que pour ça dans Bhagavad Gita, lorsque la cause est bonne, les kshatriyas qui tuent un ennemi n'encourent pas de péché s'ils se battent pour une cause juste. Et s'ils meurent, ils sont élevés à des planètes supérieures. Puis s'ils gagnent, ben ils ont la récompense qui vient avec la victoire. Ça, c'est pour les kshatriyas. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben, ces jours ici, les kshatriyas, c'est pas pour les mêmes causes spirituelles qu'ils se battent. Ils se battent pour pouvoir, pétrole, terrain, toutes sortes de choses, mais sauf pour the rightness, c'est-à-dire pour les bonnes choses. Ils disent, ils mettent ça en arrière pour ça, qu'ils défendent quelque chose, mais c'est pas la faute des soldats, c'est les dirigeants qui les avec la propagande qui les font croire que c'est une bonne cause.
C'est ouais, divine. C'est... Ouais, 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 divine, ça c'est très discutable là. Mais c'est politique. C'est de la politique. Les soldats ont différentes raisons aussi de s'engager dans l'armée. Il y en a c'est que faire vivre leur famille. Ils ont choisi cette voie-là.
Les patriotes, c'est pour le pays.
Oui. Ouais. Alors, c'est sûr, c'est pas conscient de Krishna directement, mais si quelqu'un a un devoir à faire, ben il faut qu'il fasse son devoir.
Est-ce que lui paye, c'est en tuant, veut dire, lui pense de bien faire la chose, mais en arrière de la direction, c'est vraiment pas du tout dans ça. Mais le soldat qui tue est-ce qu'il est coupable comme celui qui a donné les ordres, même s'il n'est pas conscient? Juste une question comme...
Ben, disons, on va mettre ça tout sur le dos du karma. Et comme Krishna dit dans le Bhagavad Gita, c'est très difficile de comprendre le karma. Jusqu'à quel point c'est complexe. Alors, c'est sûr, c'est aussi expliqué que les guerres sont des conséquences, disons, d'activités pécheresses dans le passé. Et entre autres, par exemple, comme la consommation de chair animale, c'est presque garanti que dans une vie future, vous allez vous ramasser dans un champ de bataille. Et puis vous allez souffrir, vous allez mourir, tué par peut-être des êtres vivants qui étaient jadis des animaux que vous avez mangés. Alors, on peut pas dire quoi est dû à quoi ou remonte à quoi, mais c'est sûrement pas un hasard. que quelqu'un se retrouve sur un champ de bataille puis qui est obligé de lutter pour sa vie. C'est soit que c'est lui qui vit ou c'est lui qui est tué. Et c'est bon pour l'ennemi en face de lui aussi. Alors les deux, c'est un combat à mort. Et soit il y en a un qui vit, soit il y en a un qui meurt. Et c'est aussi simple que ça, là.
Mais est-ce qu'il y a vraiment un ennemi devant l'autre personne? Parce que tous les deux croient à une bonne chose.
Ben, un ennemi, oui. C'est sûr qu'il doit avoir un ennemi. C'est ça une guerre.
Mais c'est l'ennemi dans la tête. C'est le gars qui se bat contre l'autre, là. Il était peut-être forcé ou peut-être pas, là. Mais dans sa tête, il était motivé qu'il faisait du bien. C'était pour la bonne cause. Il y en a pour l'argent, il y en a pour d'autres choses, mais disons en majorité. Tu sais. Mais les deux, ce sont des amis, puis les deux en même temps, c'est des ennemis. D'un côté de l'autre, c'est mon ennemi. Alors, c'est dur de voir si vraiment qui est l'ennemi dans tout ça.
Disons, d'un point de vue politique, ils sont ennemis. Alors, faut juste voir comme ça. C'est comme Arjuna, c'était le même problème avec Arjuna. Arjuna voyait pas des ennemis. Il voyait les membres de sa famille. Alors, tout était basé là-dessus pour refuser de combattre. Mais Krishna, lui, c'était pas comme ça qu'il voyait ça, lui-là. Lui, il voyait, il y a un parti qui est juste, qui est l'héritier légal, conforme à Maharaj Pandu. Et l'autre côté, ils ont usurpé le royaume. Ils n'avaient pas droit à ce royaume-là, Dhritarashtra et ses fils. Alors Krishna, lui, c'est Prabhupada dit, c'est la justice suprême. Alors, la justice suprême était là, sur place. Alors, c'est lui qui a décidé que Arjuna doit combattre, et c'est un combat juste. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans cette direction-là.
Alors. Ça, je comprends. Ça, il y avait une guerre entre deux principes très opposés à l'autre, tu vois. Ça, c'était une guerre spirituelle. Mais aujourd'hui, les guerres sont plus spirituelles. C'est vraiment matériel. Mais ils mettent ça comme spirituel, tu vois. C'est des démoniaques, eux autres. La propagande est vraiment juste verbale, mais dans l'action en arrière des peuples, c'est pas du tout qu'est-ce qu'ils se battent pour. Mais on est dans l'âge de Kali, alors c'est
l'hypocrisie. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il faut pas oublier qu'on est dans l'âge de Kali. Aujourd'hui, il y a aucune juste cause, en fait, si c'est pas... La cause de Krishna, il n'y a pas de juste cause. Les gens se battent pour des intérêts personnels et c'est des boucheries, quoi. C'est les gens. Il n'y a pas de. C'est le Kali Yuga.
C'est ça. Kali Yuga.
Et moi, je voulais te demander justement, Prabhu, est-ce que les Kshatriyas, comme Madame Ananda parle un peu les guerriers d'aujourd'hui, on peut pas les comparer aux Kshatriyas de l'époque des Pandavas. C'est pas la même ils ont pas la même qualité, quoi.
Exactement. On peut pas, il n'y a pas de comparaison, non.
Tu nous avais dit ça un jour, il n'y a plus de kshatriya, il n'y a plus tout ça, c'est que des asuras, en fait, tout ça. Même nous, quoi, limite, voilà, on est,
Dans l'âge de Kali, tout le monde est Sudra.
Sudra, voilà, c'est ça.
Voilà.
Sudra.
Alors, c'est,
une confusion,
en sanskrit, c'est dit Kalo Sudra Sambhava. Ça veut dire, dans l'âge de Kali, tout le monde est Sudra, il n'y a personne qui est qualifié pour être Brahmana, Kshatriya, Vaishya, à la rigueur Vaishya. Prabhupada dit, la société d'aujourd'hui est dirigée par des Vaishya. Des commerçants, des hommes d'affaires, des banquiers. Et ensuite, l'ensemble de la société générale, c'est des Sudras. Alors, les autres, ils suivent qu'est-ce qui est au-dessus d'eux autres, et puis, ils pensent qu'ils ont un petit mot à dire, mais dans le fond, c'est ceux qui tirent les ficelles qui ont vraiment un mot à dire dans la société. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, L'idée pour avoir la maîtrise des sens, et puis toute cette lecture, c'est une grande classe de Prabhupada qu'on est en train de lire. Et le sujet, ben, c'est la convoitise. Et l'analogie qui est donnée, disons comme l'analogie de l'arbre, de l'enfant recouvert par la matrice, le feu recouvert par la fumée, ça indique différents degrés de convoitise ou de concupiscence. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que la concupiscence recouvre la conscience originelle de l'être vivant. Alors, lorsque l'être arrive dans une forme humaine de vie, c'est l'opportunité par excellence de raviver sa conscience de Krishna originelle. Alors, il faut savoir en profiter. Et ça, c'est comparé à une flamme que si on souffle dessus, ça peut devenir un feu bien déployé. Mais tout le monde a une petite flamme dans son cœur, parce que tout le monde a une relation originelle avec Krishna. Alors, la vie humaine, c'est fait pour encourager cette petite flamme et la faire jaillir de plus en plus. Alors, ça s'applique justement à, comment dire, à la prédication des dévots, à devoir justement à qui tu prêches, quel est le degré de flamme. Et il y en a que, on peut dire, il y a quasiment pas de flamme, mais il y en a une flamme. Elle est toute, toute, toute petite, à peine perceptible. Alors, c'est comment on allume la flamme? Ben, on chante Hare Krishna. Les dévots chantent Hare Krishna. Ou on prononce le nom de Krishna au cours d'une conversation et ça purifie la personne qui parle puis la personne qui entend le nom de Krishna. Et c'est les êtres humains qui peuvent faire ça. Alors, c'est ça. C'est comme, attends une minute. C'est ça. Il y avait un film, disons, comment on peut dire, un film de police qui a deux enquêteurs qui essayent de trouver un meurtrier, whatever, whatever. Puis au cours du film, un des policiers est en train de manger un plat de riz. Du riz avec, tu prends ton truc rectangulaire, tu mets ça au micro-ondes, tu l'enlèves, puis tu mets ça sur la table, tu manges direct dedans. Alors, dans le film, l'acteur principal, il demande à l'autre, il dit, qu'est-ce que tu es en train de manger là? Est-ce que c'est de la bouffe Hare Krishna? Alors, il dit ça à l'autre. Alors, le fait d'avoir dit, est-ce que c'est de la bouffe Hare Krishna? Combien de monde va avoir de bénéfices d'avoir entendu le nom de Hare Krishna? Parce que tu t'attends tellement peu à ce que Hare Krishna sorte dans le contexte. Là, tu entends Hare Krishna. Tu vas oublier le film, mais tu vas pas oublier ce petit bout-là dans lequel le nom de Krishna a été prononcé. Alors, c'est comme les gens, ils voient des dévots, mettons, dans les années 70, c'était comme ça, là, aux États-Unis, à l'aéroport de Chicago, qui s'appelle O'Hare. C'est comique parce que c'est Hare Krishna qui est là, il dit O'Hare à Chicago. Les dévots sont là, distribuent des livres dans l'aéroport tous les jours, et les gens vont voyager partout dans le monde Puis là, nous, quand on était à Paris, on rencontrait du monde parce que Paris, c'est tellement international. Beaucoup de touristes qui vont à Paris, aller-retour, etc., etc. Puis beaucoup de gens, quand ils voyaient des dévots, ils nous disaient, ils disaient, ah bon, je vous ai vu à telle ville ou telle ville, à l'aéroport, une telle. Et puis, les gens vont se souvenir parce que c'est l'âme qui se souvient. Ça touche à l'âme. C'est pas un sujet ordinaire. Disons, Hare Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. On va continuer. On était rendu à page 180. Dans le milieu, Virginie, voudrais-tu lire ligne 20?
180?
Ouais.
OK. Hare Krishna. Tamala Krishna. 41. Aussi, Arjuna, au meilleur des Bharata, commence par enrayer le fléau de la concupiscence, symbole même du péché, en disciplinant tes sens. Écrase ce destructeur de la connaissance et de la réalisation spirituelle. Prabhupada, oui, réguler. Comment peut-on réguler les sens? Pas par des moyens artificiels. La pratique du yoga, bien sûr, vise à maîtriser les sens. Mais personne ne peut pratiquer parfaitement le yoga en cet âge, ni maîtriser les sens. Telle est une observation pratique. Tout comme notre sens du goûter, notre langue, nous voulons savourer des plats très appétissants. Vous lui présentez un délicieux mets offert à Krishna qu'on appelle prasad. Vous oubliez aussitôt d'aller manger à l'hôtel. Cette façon de faire relève de la conscience de Krishna. Nous ne nous contentons pas d'interdire. Vous ne faites pas ceci ou cela, mais nous vous offrons quelque chose qui engage vos sens, votre mental, votre intelligence, de sorte que vous n'avez pas besoin de chercher autre chose. Positif et négatif. Le négatif ne sert à rien sans engagement positif en contrepartie. La conscience de Krishna est conformément un engagement positif. Il n'est donc pas question de simple interdiction. L'interdiction négative est déjà prise en compte. Si vous consommez une très bonne nourriture, vous renoncez par le fait même à une nourriture de mauvais goût dans tous les sens du terme. Mais si je dis ne prenez pas telle ou telle nourriture, ce n'est pas bon. Et si je ne vous fournis pas de bonne nourriture, naturellement, vous resterez sur votre appétit et vous prendrez ce que vous aurez sous la main. Tout comme parfois, vous avez vu les chiens, ils mangent des sels, leur propre sel. C'est ce que je disais, un de mes étudiants m'a dit que lors de la dernière guerre, dans les camps de concentration, les êtres humains mangeaient aussi leur sel parce qu'ils avaient tellement faim. Vous voyez, ils n'avaient rien à manger, alors ils mangeaient leur propre sel. Donc, quand il n'y a pas de façon de bien faire les choses, on doit se contenter d'ineptie, de piètre façon. La conscience de Krishna est si bien conçue que celui qui est absorbé dans ce mouvement ne peut plus s'adonner à ce qu'on appelle la concupiscence et autres inepties.
Ah, continue. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, oui. Alors, il y a un point très important ici, Prabhupada fait, positif et négatif. Alors, Prabhupada était un maître spirituel qui savait de quoi il parlait et était tellement, disons, soucieux de donner la connaissance, si on peut dire, à 360 degrés. À savoir pas juste un petit bout par-ci, un petit bout par-là, puis ne manquer d'explications essentielles pour comprendre un point philosophique. Alors ici, Prabhupada fait un point qui met un terme pratiquement parlant, à toute forme de lamentation de dévot qui pourrait penser, comme on a discuté un peu précédemment dans ce cours, à savoir, quelqu'un se lamente qu'il a de la difficulté avec son mental, avec ses sens, son intelligence. Mais Prabhupada donne ici positif et négatif. Quelqu'un, par exemple, c'est fort possible qu'un dévot va dire, ah, j'ai de la difficulté avec mon mental. Puis dans son fort intérieur, il voit ce qu'il a de la difficulté avec. Puis là, s'il pense que la conscience de Krishna, ça veut dire rejeter artificiellement les choses avec lesquelles il y a de la difficulté, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir?
Non, non.
La réponse est non.
Parce qu'en fait, c'est pas rejeter, hein, si je suis ton raisonnement, c'est qu'il faut transformer.
Oui.
En fait, c'est-à-dire que ce qu'on sait qui est pas bon, on va pas l'offrir à Krishna, mais c'est transformer, comme l'exemple du prasad. On peut pas dire à quelqu'un, tu ne manges pas ça, c'est pas bon. Mais derrière, jusque-là, Prabhupada, il prenait le temps d'expliquer pourquoi c'était pas bon et qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place pour que ça devienne ultra bon, en fait.
Oui.
Manger du prasad, offrir de sa nourriture à Krishna et en manger les reliefs.
Exactement. Et comme Prabhupada dit si bien ici, on va le relire, là. Le Prabhupada dit une interdiction
négative
est déjà prise en compte. C'est ça. Alors, tu dis pas telle chose, mais en même temps, tu dis voici le quelque chose qui est positif. Automatiquement, le côté négatif est pris en compte, à savoir que est remplacé.
Mm-hmm.
Il va disparaître de lui-même. Parce que justement, il y a un engagement positif qui a été proposé.
À la place.
À la place. Alors, la conscience de Krishna, c'est exactement comme ça.
C'est effacer le négatif. Ça efface le négatif.
Ouais. Exactement. C'est un point important, ça. À ce moment-là, si c'est comme ça, la conscience de Krishna est un service. On a lu ça précédemment aussi. On en a discuté de ça. Prabhupada dit, la conscience de Krishna, c'est l'engagement dans le service positif du Seigneur. Ça, c'est tel que Prabhupada le dit. Alors, c'est un engagement positif. Alors, il faut se poser la question à savoir si on a une difficulté quelconque, peu importe, est-ce que on est suffisamment engagé dans le service positif du Seigneur, ou il y a quelque chose qui nous embrouille l'esprit, qui n'a pas rapport avec le service positif offert au Seigneur. Alors, tout ça, ça se fait avec le temps. C'est le temps qui va jouer en la faveur d'un dévot. Si le dévot est sincère et il suit les instructions et il s'engage, se tient engagé dans le service de Krishna. Alors, plus le temps va passer, plus le dévot va se purifier et plus ça va être facile de pratiquer la conscience de Krishna. Et pour quelqu'un d'autre qui se laisse, disons, distraire, ça va être un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Mais pour s'engager dans le service, il faut être muni avec une intelligence pour comprendre dans quelle la valeur. Je sais pas si juste rentrer dans le service puis la valeur va venir avec le temps, ça se pourrait bien aussi. C'est qu'on voit la qu'est-ce qu'on sert, c'est à qui les qualités et tout ça de c'est l'intelligence qui nous donne toutes ces visions-là. Et là, on a de la motivation à embarquer dans le service. Parce qu'on voit les valeurs, la direction qu'on prend.
Oui. C'est tout à fait correct. Alors, les instructions de Krishna, ça ouvre l'intelligence. L'intelligence spirituelle, il y a intelligence matérielle et intelligence spirituelle. L'intelligence matérielle, ben, c'est comprendre 1 plus 1 égale 2, puis 4 plus 4 égale 8, puis 8 plus 8 égale 16, et ainsi de suite. C'est pas difficile, ça. Mais, par exemple, l'intelligence spirituelle, c'est, par exemple, 1 plus 1, un plus un dollar, ça va faire 2 $. Avec 2 $, je peux m'acheter un billet pour aller au temple. Ça, c'est spirituel. Ou réfléchir. Par exemple, comment on peut dire? Le mode de vie conscient de Krishna est un mode qui sous-entend l'utilisation de l'intelligence. À donner un exemple qui est très pratique dans la répartition du temps d'une journée pour un dévot de Krishna, à quelle heure commence sa journée pour un dévot de Krishna? À quelle heure commence la journée?
4 heures.
Trois heures et demie.
Dans ce coin-là. Ça commence 1 heure et demie avant le lever du soleil, ce qui est appelé le Brahma Muhurta. C'est l'heure idéale pour les pratiques spirituelles. Alors, si quelqu'un fait de la méditation ou fait autre chose, mais en particulier dans les temples, c'est avant le lever du soleil, 1 heure et demie avant, ça va être 4 heures, 4 heures et demie dans ce coin-là, et ça va être le Mangal Arati. Et puis ensuite les tours, une classe de Bhagavatam, etc., etc. Alors, la journée commence de bonne heure pour la conscience de Krishna. Mais ça, c'est voulu, ça. Et qui a pensé à ça? Qui a établi que c'est le matin de bonne heure qu'il faut se lever, puis qu'il y a des rituels à suivre? Qui a pensé à ça?
Ça vient de loin, non?
Ça vient de
C'est les
loin.
Védas?
Les Védas, oui, mais disons, on parle de personne.
C'est pas Arjuna?
Pardon?
Arjuna, dans sa pratique de Kshatriya et tout ça?
Vyasadeva?
Ce sont les Acharyas,
Acharya.
les maîtres spirituels réalisés du passé. Ben, et le maître spirituel, le premier,
Krishna.
c'est Krishna. Alors, ça vient en succession disciplique, et puis c'est transmis à travers les âges, et puis c'est ça. La journée commence de bonne heure avant l'aube, puis elle se termine le soir. Comme Prabhupada, il y avait un dévot dont on mentionnera pas le nom, et il se couchait à 9 heures le soir. Et ce dévot-là, pour une raison ou pour une autre, Prabhupada disait, ce dévot-là se disait avancé. Alors, mais Prabhupada, lui, disons, comme l'expression québécoise qui dit, dans son livre à lui, c'est que la journée d'un dévot, ça commence à 4 heures le matin, puis ça se finit à 10 heures le soir. Ça, c'est selon disons, Srila Prabhupada. Alors, Prabhupada, dans une classe que j'ai entendue, il faisait un commentaire justement qu'il disait, non, donc c'est Prabhupada là, qui dit, non, il se couche à 9 heures le soir et il se dit un dévot avancé. Alors, mais pour Prabhupada, c'est de 4 heures à 10 heures que ça se passe. Alors, de 4 heures à 10 heures, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, à partir de 7 heures jusqu'à 10 heures? Il reste 3 heures. Et c'est comme le matin pour les dévots. Ils se lèvent maintenant à 4 heures, vont au Mangal Arati, puis ils vont prendre le petit déjeuner vers les... Ça dépend des temples, là. Mais il y en a comme au temple de Montréal, je trouve ça un peu loin, merci. ils vont prendre un petit déjeuner à 9 heures le matin. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, là, de prendre un petit déjeuner à 9 heures. La plupart du temps, la plupart du monde ordinaire, là, sont déjà au boulot à 9 heures le matin. Ils partent de la maison vers les 6 heures, 6 heures et demie. Ça dépend de combien ils ont à voyager. Puis finalement, ils arrivent au boulot, c'est pour 8 heures, pour 9 heures, quelque chose comme ça. Il y en a, c'est plus tard. Et qu'est-ce qu'on dirait donc? Non, le soir, c'est pareil. Il y a de la place pour faire un programme spirituel. Alors, comment ça marche dans les temples? Le soir, il y a l'arti de 7 heures. Après, une classe de Bhagavad Gita. Après, il peut y avoir une classe du livre de Krishna. Et puis, un prachad, et puis une classe du livre de Krishna. Puis après, ben, tu t'en vas te coucher, puis le lendemain matin, tu recommences. Ça, c'est le programme. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
J'ai pas bien suivi le début parce que j'ai eu une coupure de courant. Tu disais, qu'est-ce qu'on fait de 7 heures à 10 heures?
Alors, le point, c'est que le matin, les dévots se lèvent de bonne heure. Mettons, on parle de dévots de temple. Là.
Voilà, parce que quand on a des activités professionnelles, c'est faut pouvoir adapter, en fait.
Oui. Il faut adapter selon temps, circonstances et individus. Là. Parce que juste suivre pour suivre, c'est pas bon non plus. Juste pour l'idée d'avoir une conscience tranquille. Ah, je l'ai fait. Mais tu pensais plus à suivre les principes que la conscience qu'il faut avoir quand on les suit. Il y a toujours bien des limites, là. Alors, il faut vraiment que ça soit autant que possible authentique, c'est-à-dire sincère et penser à Krishna, etc. Alors, le soir, dans un programme de temple, il y a justement l'arti à 7 heures. Après l'arti, il y a une classe, Bhagavad Gita. Après la Bhagavad Gita, il peut y avoir soit les dévots échangent entre eux autres. Et puis à 9 heures, lecture du livre de Krishna. 9 heures et demie, c'est prachad. Puis après, les dévots vont se coucher. Et les dévots dorment, Prabhupada dit, 5 heures à 6 heures, c'est suffisant par jour en termes de sommeil. Ça peut même aller jusqu'à 8 heures si certaines personnes en ont vraiment besoin, mais pas plus que 8 heures. Mais en général, c'est entre 5 et 6 dans les temples. Et puis, le lendemain matin, tu te relèves et le programme est encore là. Tu te lèves de bonne heure, tu vas au Mangal Arati. Tu suis le programme matinal, prends prachad, le petit déjeuner, puis après tu fais ta journée dans le sens que des dévots ont des devoirs à faire dans les temples. Et puis après, ben c'est sankirtan. Mais ça, c'est des horaires de temple, ça. Mais pour une personne qui vit dans le monde en général, t'essaies d'avoir un programme spirituel, fais quelque chose avec lequel tu es confortable, et puis pendant la journée, ben tu penses à Krishna, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, c'est tout. Tu sais, c'est comme ça. Là. Vous savez déjà tout ça, vous autres. Parce que vous habitez pas vraiment dans les temples, là. Vous êtes situé dans votre vie. Alors, vous faites du mieux que vous pouvez, et puis c'est bon. Krishna est témoin, il regarde, et puis vous donne l'inspiration pour être un peu plus conscient de Krishna tous les jours. Et puis, that's it, that's all.
Puis on a beaucoup de grâce parce qu'on a des associations aussi. Le samedi, le mercredi, le jeudi, n'est-ce pas, Madame Ananda, aussi le jeudi, on se retrouve aussi. Donc c'est bien, ça fait du bien, surtout quand on est un petit peu isolé. C'est beaucoup de grâce d'avoir ces associations qui permettent comme ça de clôturer des journées vraiment ensemble autour de la conscience de Krishna et de l'étude des livres saints.
C'est tout à fait, c'est motivant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va continuer à lire si vous n'avez pas d'autres sujets de discussion. OK. Alors, Ananda, voudrais-tu lire?
Oui, bien sûr. On est arrivé à quelle ligne? Parce que je l'ai perdue.
Le 181, ligne 12.
Ah, ligne 12. Parfait. Ok. Merci. Continuez. Tamala Krishna, 42. Les sens prévalent sur la matière inerte. Supérieur aux sens est le mental, et l'intelligence surpasse le mental. Mais plus élevée encore est l'âme. Prabhupada. Nous devons donc nous élever au niveau de l'âme. Généralement, nous nous situons au niveau corporel, celui du corps composé de sens limités et imparfaits. Et le centre de tous les sens est le mental. Et le mental est également contrôlé par l'intelligence. Et lorsque vous dépassez le niveau de l'intelligence, alors vous arrivez au niveau de l'âme spirituelle, ou celui de la conscience de Krishna. Telle est votre position. Il faut donc essayer de transcender ces trois niveaux matériels pour ensuite arriver au niveau spirituel. Oui. Tamala Krishna, 43. Ainsi, sachant le soi au-delà des sens du mental et de l'intelligence matérielle, ô Arjuna, ô bras puissant, tempère ton mental par l'action délibérée de l'intelligence spirituelle, la conscience de Krishna, et de par cette force spirituelle, conquiert cet ennemi insatiable qu'est la concupiscence. Teneur et portée. Ce troisième chapitre de la Bhagavad Gita nous oriente de façon concluante vers la conscience de Krishna. Il nous apprend à nous reconnaître comme les serviteurs éternels de la personne suprême et à ne pas considérer le vide impersonnel comme l'objectif ultime. Au cours de son existence, l'homme est assurément porté à la concupiscence et désire se rendre maître des ressources de la nature matérielle. Ces désirs de domination et de jouissance sont les plus grands ennemis de l'âme conditionnée, mais fort de la Prabhupada. Généralement, ceux qui sont sous le concept corporel de l'existence ont à se battre jour et nuit. Pourquoi? Par suite en vue de dominer cette nature matérielle. Telles sont les activités matérielles. Et ceux qui sont sur la plateforme mentale, ils essaient de philosopher, de faire des spéculations mentales. Ceux qui font preuve de plus d'intelligence s'adonnent à la pratique du yoga, en essayant avec sagesse de maîtriser les sens. Mais dès que vous arrivez au niveau spirituel, ces choses se font automatiquement, car tous vos sens, votre mental et votre intelligence sont absorbés dans la conscience de Krishna. Continuez, oui, continuez. Tamala Krishna. Mais fort de la conscience de Krishna, il est possible de maîtriser nos sens, notre mental et notre intelligence matérielle. Il ne faut pas abandonner son devoir et cesser brusquement d'agir, mais développer graduellement la conscience de Krishna, avec une intelligence ferme, rompue à la recherche de la pure identité du soi, pour s'établir au niveau transcendantal où l'on n'est plus influencé par les sens et le mental. Tel est l'enseignement de ce chapitre. Tant que l'homme reste plongé dans l'existence matérielle, la spéculation philosophique et la maîtrise artificielle des sens par la prétendue pratique de postures de yoga ne peuvent ri en rien servir à son évolution spirituelle. Il doit être guidé par la conscience de Krishna, par une intelligence supérieure. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le troisième chapitre de la Srimad Bhagavad Gita traitant du karma yoga ou de l'accomplissement des devoirs prescrits dans la conscience de Krishna.
Jai.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
C'est toujours par la grâce de Krishna qui voit nos désirs. Son désir de servir va nous donner la voie pour y arriver.
Exactement. Et aussi l'humilité. L'humilité est importante chez un dévot ou une dévote. L'humilité de rend capable d'accepter des instructions qui peuvent nous sembler un peu difficiles à accepter. Alors, donnons un exemple. Comme c'est dit ici, là, page 182, ligne 10, ligne 11. Tel est l'enseignement de ce chapitre. Tant que l'homme reste plongé dans l'existence matérielle, la spéculation philosophique et la maîtrise artificielle des sens par la prétendue pratique de postures de yoga ne peuvent en rien servir à son évolution spirituelle. Il doit être guidé dans la conscience de Krishna par une intelligence supérieure. Alors, si quelqu'un est très fier, disons, de ce qu'il fait dans ces deux choses-là, là, la spéculation philosophique et la maîtrise artificielle des sens par la prétendue pratique de posture de yoga, ça va être difficile d'accepter la conscience de Krishna. Alors, mais par contre, avec une petite dose d'humilité, c'est possible. Il faut avoir un peu d'ouverture d'esprit pour justement avoir dans son mental l'idée que, ah, je vais écouter ce que ce maître spirituel-là a à dire. Et s'il est un maître spirituel et j'ai de la chance de comprendre, ah, ça c'est un maître qui fait autorité en la matière. Il en connaît plus que moi. Qui suis-je pour soit douter de ce qu'il a à dire, de ses enseignements? Si quelqu'un a une base d'humilité, la porte est ouverte. Il peut comprendre les enseignements de la conscience de Krishna. Après, comme Prabhupada disait, il ne faut pas, Prabhupada disait, faut pas accepter la conscience de Krishna aveuglément. Parce que justement, il y a de la place pour, disons, chercher à comprendre avec son intelligence l'enseignement de la philosophie de la conscience de Krishna. Et ça, c'était bienvenu avec Srila Prabhupada. C'est ce à quoi sert un maître spirituel. Éclairer un disciple et avec ses enseignements, le disciple va comprendre de plus en plus la conscience de Krishna. Il va être intéressé de plus en plus. Il va pratiquer la conscience de Krishna. Et puis, c'est merveilleux. Sa vie devient sublime. Comme Prabhupada disait, chantez Hare Krishna et votre vie sera sublime. C'est en plein ça. Alors, quand la vie est sublime à cause de la conscience de Krishna, pratiquement parlant, tous les problèmes d'un dévot ont disparu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Personne n'a de problème?
Justement, avec la conscience de Krishna, tu abordes les difficultés et les problèmes avec un autre état d'esprit, avec une autre vision, tu as un autre œil en fait. T'as un autre œil qui s'ouvre. Ça n'a pas l'importance que tout le monde revêt autour de certains problèmes ou de certaines occupations ou préoccupations viles et vaines sur des choses matérielles qui n'ont pas d'importance dans notre propre existence. Enfin, le summum bonum de l'existence, en fait, qui est notre relation avec l'éternel, avec Krishna.
Ouais.
Ça, et on accorde de l'importance à plein de choses qui n'en ont pas, en fait.
Ouais. Et il faut faire attention un petit peu à cette mentalité-là, dans le sens que on prend des choses pour acquises d'une certaine façon. Ce n'est pas vilain. Par contre, si on écoute un maître spirituel réalisé comme Srila Prabhupada, on écoute ses classes, et là, on va pouvoir s'associer avec sa vision des choses et laquelle nous fait voir, disons, dans des banalités, que nous, ce qu'on considère des banalités de la vie matérielle, lui, il voit Krishna, lui. Alors, je donne un exemple, on a déjà donné l'exemple. Prabhupada qui prend une marche le long de au bord de la mer, océan Pacifique, à Los Angeles, avec des disciples. Et là, Prabhupada demande aux disciples, qu'est-ce que vous voyez? Les dévots sont surpris, ils savent pas quoi répondre. Un essaye ceci, un essaye cela. Et Prabhupada, finalement, explique, Krishna a ordonné, il dit, pourquoi vous marchez le long du bord de la plage comme ça? Et vous n'avez pas peur que l'océan va vous engloutir. Alors, Prabhupada explique, ça c'est parce que Krishna a ordonné à l'océan de ne pas aller plus loin que la plage. Ça, c'est la vision de Prabhupada. Alors, pour nous qui sommes des humains ordinaires, jamais on va penser à ça. On va pas voir la volonté de Krishna là-dedans, là. Même on pourrait dire, la plage, c'est Maya, tout le monde va sur le bord de la plage, ils oublient Krishna, et puis les hommes sont après les femmes, puis les femmes sont après les hommes, et it's a waste of time. C'est tout le monde perd son temps. Mais Prabhupada, lui, il voit, Krishna, il a ordonné à l'océan de pas aller plus loin. Puis il va pas plus loin. Puis là, ben, les dévots, quand ils prennent la marche matinale avec Prabhupada, ils sont tout seuls sur la plage. Alors, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Ils sont tout seuls sur la plage. Les dévots, un enregistre les paroles de Prabhupada, puis les dévots posent des questions avec Prabhupada. Ça fait que la même plage devient un lieu de pèlerinage parce que Prabhupada a passé par là et l'endroit est purifié, même si ça non plus, les yeux voient pas. Mais le pur dévot est passé par là. Alors, ça devient un lieu de pèlerinage. Alors, c'est comme, par exemple, mettons, les gens vont aller là où Jésus a passé. Mais pourquoi ils veulent aller là? Parce que c'est un lieu de pèlerinage. La personne sainte est passée par là.
Ouais.
Alors, c'est la même chose. Alors, la plage mondaine est devenue spirituelle parce que le pur dévot a été à cet endroit. Alors, ça, c'est la beauté de la conscience de Krishna, c'est d'amener Krishna tout partout. Et Krishna est déjà dans le cœur. Il est particulièrement dans le cœur d'un pur dévot parce que lui, il pense toujours à Krishna dans son cœur. Et comme c'est dit, le pur dévot voit avec les yeux de l'amour Krishna qui est situé dans son cœur. OK. Des questions, commentaires?
Non, c'est... Merci.
OK. D'accord. OK. Merci beaucoup. C'est le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis,
merci. On se revoit mercredi.
Oui, mercredi prochain. Oui. Même heure, même poste. Merci beaucoup.
Merci. Krishna, tout le monde.
Krishna.
Merci.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Merci de votre attention.
Hare
Krishna. Jai. Hare Bol. Jai. Alors,
okay, je vais aller fourrer mes croissants et puis on s'en va. La livraison.
Ok, une minute. Pourquoi c'est comme ça? Ok. Mm-hmm.